France Culture présente un podcast inédit de fiction. Rose Vallant, héroïne de l'ombre. Paris, 1943. Hitler a mis en place le pillage systématique des œuvres d'art en France. Rose Vallant va prendre tous les risques pour s'opposer à cette entreprise de spoliation.
Des caisses ont été livrées ce matin au jeu de paume, monsieur le directeur. Le musée est devenu la plaque tournante des œuvres. Tout transite par chez nous avant d'être expédié en Allemagne.
Rose Vallant, héroïne de l'ombre. Une série radiophonique en 6 épisodes, réalisée par Pascal Deux sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture. France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Le 14 novembre s'est tenue la journée mondiale du diabète, une journée pour sensibiliser à cette maladie. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est fréquente, elle concerne en effet plus de 4 millions de personnes dans notre pays et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ensuite parce qu'elle est potentiellement grave, non prise en charge, c'est le facteur de risque principal d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Or, 600 000 personnes ignorent qu'elles sont porteuses de cette maladie. Et puis enfin parce qu'elle se traite et il y a du nouveau dans ce domaine. Et même, on sait aujourd'hui qu'elle est parfois réversible. En clair, des patients peuvent arrêter tout traitement et vivre sans risque, pour peu bien sûr qu'ils adoptent et suivent une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que cette maladie ? Comment savoir si l'on est atteint ? Quelle est la prise en charge ? Pourquoi l'alimentation ultra transformée représente-t-elle un danger ? Que manger ? Et comment bouger si l'on est diabétique ? Et pourquoi y a-t-il des pénuries de médicaments ? Toutes ces questions, nous allons les poser à notre invité, le professeur Agnès Hartmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, je disais en préambule que la fréquence du diabète ne cessait d'augmenter. La Fédération internationale du diabète estime que plus de 450 millions d'adultes sont atteints de diabète dans le monde et que ce nombre devrait atteindre 700 millions d'ici 2045. On qualifie cette maladie d'épidémie au niveau mondial. C'est notre mode de vie qui est en cause, qui explique cette hausse.
Oui, c'est tout à fait notre mode de vie. L'industrie agroalimentaire est extrêmement puissante et on est constamment sollicité pour mal manger. Après, avant, on appelait ça la malbouffe. Je trouve que le terme était tout à fait adapté. On est sollicité pour manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et dès qu'on commence à manger comme ça, on devient addict à ces nourritures. Et donc, c'est très difficile de lutter dans notre environnement pour pas prendre de poids.
On va y revenir, bien évidemment. Et ce mode de vie, il faut le dire, intervient donc dans le diabète de type 2. C'est celui dont on va parler majoritairement aujourd'hui, qui concerne 94% des malades. Est-ce qu'on peut déjà redéfinir ce qu'est ce diabète ?
Alors, le diabète de type 2, c'est le diabète justement lié à l'environnement, mais dans un contexte particulier, parce que il y a des gens qui peuvent grossir sans devenir diabétiques. En fait, c'est votre famille qui vous transmet des gènes dits de prédisposition, c'est pas des mutations. Et il n'y a pas de fatalité, mais il y a un terrain à risque. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que dans ces familles, quand le surpoids commence, parce qu'il y a cet environnement très, très délétère qui nous pousse à manger très calorique, dans ces familles, il y a un déficit pour arriver à stocker ce poids sous la peau. Quand on stocke comme ça, on grossit des cuisses, des fesses, mais on ne devient pas diabétique. Et il y a des gènes qui prédisposent à devenir diabétique parce que ce compartiment ne marche pas. Et le gras, quelque part, ne sait pas où aller se mettre. Et il se met autour des viscères, donc on a un ventre qui commence à grossir. Et puis, ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que chez ces personnes, si on leur fait une biopsie des muscles qui ont l'air de bien aller, il y a d'énormes dépôts graisseux aussi dans les muscles et dans le foie. Et dans les muscles, ça expliquerait aussi pourquoi souvent ces personnes ont du mal à se mettre à l'activité physique ou n'aiment pas bouger. Elles sont probablement beaucoup plus fatigables que d'autres.
Donc, évidemment, le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi les conséquences, les risques à avoir un excès de sucre dans le sang de manière régulière ?
Alors, les risques, d'ailleurs, on va en reparler sûrement, mais dans le diabète de type 2, c'est une maladie qui, pendant des années, ne donne aucun symptôme. Donc souvent, on le découvre tard. J'ai relu les chiffres en France. Maintenant, il y a eu un gros progrès sur le dépistage, puisque 70% des patients sont dépistés. Enfin, le diabète se découvre à l'occasion d'un dépistage. Mais vous avez raison, il y a encore 20% des patients qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Et arrivent les complications. Les complications, c'est lié à une hyperglycémie qui dure depuis au moins 10 ans, sans qu'elle ait fait parler d'elle. Et ça peut commencer à vous abîmer la rétine, donc risque de perdre la vue, la filtration des reins. Et les reins peuvent mal filtrer de de plus en plus mal pendant des années sans que vous vous en rendiez compte. Et le risque, c'est d'aller en dialyse. Et puis, il y a les conséquences cardiovasculaires dont vous avez parlé. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral et artérite des membres inférieurs. Et la neuropathie du diabète qui est aussi en grande augmentation et qui expose nos patients au risque d'amputation.
La population la plus touchée, c'est qui par ce diabète ?
Alors, la population la plus touchée, c'est un peu la même population que les patients qui sont touchés par le risque d'obésité. Mais j'ai vu dans les chiffres récents de Santé publique France que ça commence aussi à gagner les milieux socio-économiquement favorisés. Ça touche un peu tout le monde, mais un peu plus les milieux socio-économiques défavorisés qui sont plus soumis à la contrainte de la malbouffe, quelque part, qui coûte quand même moins cher, qui donne du plaisir immédiat quand la vie est difficile. Mais en fait, cette population en difficulté socio-économique, elle est surtout davantage touchée par les complications.
D'accord, parce que pas pris en charge
parce
correctement.
Parce que des parcours de soins compliqués, des difficultés, parce qu'on dit que c'est pris en charge à 100%, mais il y a un reste à charge qui est important, et donc plus compliqué pour ces personnes-là. Donc, il y a une inégalité de santé sur le risque, mais aussi sur le risque de complications.
Et c'est quand même une maladie qui apparaît avec l'âge ?
Alors, c'est une maladie qui apparaît avec l'âge. La moyenne d'âge en France des patients diabétiques de type 2, c'est autour de 60 ans. Mais on la voit arriver de plus en plus jeune, puisque maintenant, le surpoids touche des jeunes. On commence à voir des patients qui sont en grande obésité depuis la petite enfance, qui peuvent devenir diabétiques à l'âge de 20-25 ans. Et puis, il y a des populations dont les parents ont migré et qui sont exposés à un risque de diabète plus précoce, donc vers 30-35 ans.
Tout ça, c'est évidemment très différent du diabète de type 1, qui démarre le plus souvent dans l'enfance et avec des symptômes.
Oui, alors le diabète de type 1, il arrive très bruyamment, parfois maintenant chez des enfants jeunes, 2 ans, 3 ans, mais très bruyamment, ce qui fait que quand il rentre dans votre vie, vous savez que vous êtes que le diabète est là depuis un mois. Si vous arrivez à le prendre en charge, qui est quand même aussi assez compliqué, c'est très envahissant au quotidien, bien qu'il y ait eu d'énormes améliorations sur le plan technologique. Mais en effet, là, vous savez depuis quand vous avez ce diabète. Et si vous le prenez en charge tôt, il y a même une étude qui montre que les patients qui vivent avec un diabète de type 1 vivent plus longtemps que les autres.
Parce qu'ils sont bien suivis, éventuellement.
Quand ils sont bien suivis et qu'ils arrivent à maîtriser la situation.
Pour revenir au diabète de type 2, vous l'avez dit, il faut souvent des années avant que le diagnostic ne soit porté et avec des complications donc qui peuvent être très graves. Pourtant, c'est simple de faire le diagnostic, il faut une prise de sang.
Voilà, il faut une prise de sang, une glycémie à jeun.
Donc on mesure le taux de sucre dans le sang.
Voilà. Si elle dépasse 1,26 g à jeun, elle est recontrôlée parce que le couperet tombe, donc c'est quand même assez violent. Donc elle est recontrôlée une deuxième fois pour vérifier que ce n'est pas une erreur. Mais en effet, c'est ça. Mais comme il n'y a pas de symptômes, les gens vont plutôt bien. Ils peuvent avoir de l'hypertension, ils ne le savent pas, du diabète, ils ne le savent pas, donc ils ne vont pas forcément chez leur généraliste.
Donc, idéalement, il faut la faire systématiquement, cette prise de sang. À quel âge on commence ? À quel rythme on la fait ?
Alors, en fait, soit on sait qu'on est à risque, parce que dans la famille, il y en a déjà. Et donc là, il faudrait commencer, dès qu'on se rend compte qu'on prend un peu de poids au niveau du ventre, puisque c'est ça qui vous expose au risque. Il faudrait pas hésiter à aller tous les 2 ans chez son généraliste en demandant cette prise de sang. Donc, c'est souvent à la quarantaine. Mais d'accord. Dans certaines familles, c'est plutôt que ça.
Et d'aller dans une pharmacie pour se faire ce qu'on appelle un dextro, une petite piqûre au bout du doigt pour mesurer le taux de sucre, ça suffit ou ça suffit pas ?
C'est très compliqué, ça, parce que nous, on l'avait fait dans une journée un peu festive qui s'appelait la boucle du diabète. Et quand vous essayez d'interpréter une glycémie qui n'a pas été faite à jeun, est-ce que les gens viennent de manger ? Qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Est-ce qu'ils ont bougé ? Vous pouvez annoncer des choses qui sont pas vraies, déjà. Bon. À la limite, c'est recontrôlé chez le généraliste. Bon, c'est vrai qu'on a des difficultés à accéder à un médecin généraliste actuellement. Ouais. Donc pourquoi pas développer ça, mais il faudrait être sûr que la personne soit à jeun et que ce soit ensuite vérifié sur une glycémie veineuse.
Et il y a plus d'hommes ou de femmes touchés ?
Il y a plus d'hommes touchés, un peu plus.
On sait pourquoi ?
55%. Je ne peux pas vous dire, parce que ce surpoids androïde qui est dit androïde, il a l'air de ressembler... un surpoids masculin, mais il touche aussi les femmes. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question.
En tout cas, l'âge entre en ligne de compte, on l'a bien entendu. On voit des adultes de plus en plus jeunes touchés par cette maladie, voire des adolescents, du fait des modifications de nos conditions de vie. On en parle tout de suite.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Carnet de santé consacré au diabète, à ses causes, à sa prise en charge, une prise en charge qui repose notamment sur des règles d'hygiène de vie. On en parle à présent avec le professeur Agnès Hartmann, chef de service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On l'a dit, la fréquence du diabète ne cesse d'augmenter dans le monde, nos modes de vie sont en cause, on ne bouge plus et on mange mal. L'alimentation ultra transformée est en partie responsable de ce diabète et notamment les additifs sont pointés du doigt.
Oui, ça m'étonne pas parce qu'on voit très bien en pratique que les patients qui ont pris l'habitude de manger comme ça ont vraiment du mal à changer. Ils le disent eux-mêmes, je suis attirée, c'est très difficile pour moi de manger autrement. Donc tout notre travail consiste, et puis bon, nous on essaye de faire ce qu'on peut, on n'est pas tout puissant les médecins, c'est une chose qu'on apprend assez vite, ça dépend vraiment de comment les personnes vont avoir elles-mêmes leur propre déclic et puis se regarder fonctionner. Je passe un peu du coq à l'âne, je suis désolée, mais il y a actuellement un capteur de glycémie qu'on peut se poser sur le bras et qui vous dit quand est-ce que vous montez, vous redescendez sans que vous ayez à vous piquer les doigts. J'ai trouvé une étude très intéressante, ce capteur avait été posé à des patients qui avaient un diabète depuis un bon moment, qui étaient mal contrôlés, avec pas mal de médicaments, et avec un groupe contrôle. Et on voit leur diabète s'améliorer nettement quand ils ont ce capteur. Et moi, avec mon regard médical, je m'étais dit, enfin, ils acceptent des traitements, bien sûr, des piqûres d'insuline. En fait, pas du tout. Ils baissent leurs médicaments et leur insuline. Et en fait, ils ont un verbatim qui est incroyable parce qu'ils ont sûrement eu des ateliers diététiques. Il faut une formation diététique. Oui. Il faut absolument une formation diététique. Mais ça suffit pas parce que ce qu'ils racontent, c'est j'ai enfin compris comment fonctionnait mon corps. J'ai découvert, ça rend humble, j'ai découvert que quand je mangeais ça, ça monte. Et en plus, il y a une espèce de grisé, il y a le plaisir de rester dans la cible. C'est très humain, le chiffre. Mm-hmm. On compte nos pas, il faut des espèces de paramètres de motivation, un peu, des critères un peu intermédiaires. Et il disait, il y a cette cible grise là, et quand je vois que je monte après un repas, je sors marcher une heure rapidement pour redescendre très vite dans la cible. Donc, ils s'approprient santé.
Ce qui est plutôt bien.
Et du coup, il y a un plaisir du contrôle qui est extrêmement important parce qu'il faut du plaisir pour se soigner. C'est que du déplaisir, ça ne marche pas.
Pour parler prévention, est-ce que si on mange du fait maison, qu'on réduit les apports en sucre et en gras et qu'on bouge, est-ce qu'on peut éviter l'apparition du diabète? Et notamment quand on est dans une tranche qu'on appelle un peu le pré-diabète entre 1,10 g et 1,26 g et qu'on sait que si on continue, on va basculer dans le diabète vrai, on peut arriver à normaliser les chiffres?
Absolument, c'est extrêmement important ce que vous dites. Il faudrait même commencer à faire ça avant que la glycémie monte. Parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que 20 ans avant que la glycémie commence à monter, le corps et le pancréas est en train de fournir énormément d'insuline pour lutter contre cette graisse qui s'est répartie. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais on sait qu'il y a des troubles métaboliques 20 ans avant que la glycémie monte. Donc, quand on est dans une famille à risque, il faudrait commencer, c'est ce qu'on dit à nos patients qui cherchent à préserver leurs enfants, à bouger et manger plus équilibré très tôt. Mais bien sûr, en pré-diabète, si vous commencez déjà à changer votre manière, mais avec du plaisir de prendre soin de soi, en fait, bien sûr, vous pouvez repartir en arrière dans votre histoire de métabolisme.
Une récente étude anglaise qui avait été faite, qui surveillait la santé de la population avant les restrictions en sucre du pays et après, et qui montre que sur 1000 bébés qui ont été restreints, j'allais dire, en sucre, il y a 35% de diabète en moins qui apparaît. Mmh. Ça veut dire que dès la petite enfance, il faudrait faire attention quand même à ce que les petits mangent pour cet avenir du diabète.
Oui, tout à fait, parce qu'on sait maintenant aussi que quand vous êtes dans le ventre d'une maman qui est à risque, qui est en grossesse, qui est à risque de diabète, qui a déjà un peu un métabolisme comme ça, il y a plus de risques de devenir diabétique. Donc, en effet, ça imprime le destin très tôt. Et ça me paraît certain, ça. Et pendant la grossesse, il faudrait aussi arriver à manger différemment. Mais elles sont accompagnées, ces femmes.
Oui.
Mais à manger différemment parce qu'il y a un impact.
Ne pas céder
aussi
à toutes les envies de fraises.
Sur le développement du pancréas. Les fraises ne sont pas sucrées. Donc on peut manger des fraises.
On ne met pas de sucre dessus.
Voilà.
On parle aujourd'hui même de rémission pour des diabétiques déjà installés, qui ont des traitements depuis des années et qui ont pu arrêter leur traitement grâce à ces changements complets d'hygiène de vie, c'est vrai?
Oui, alors vous utilisez le bon terme, qui est le terme rémission.
Oui, la question suivante, c'était est-ce qu'on peut parler de guérison?
Eh bien, non. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes à ce stade-là, si vous recommencez, si vous vous mobilisez, alors c'est quand même un changement assez radical de sa manière de vivre. Donc il y a plusieurs déclics souvent dans la vie, on a des histoires de patients. Moi ça me fascine, à quel moment, d'un seul coup, on prend une décision pour prendre soin de soi. Et quand on le demande à des patients au bout de 6 mois qui reviennent, qui ont changé plein de choses, ils ont du mal à le dire. C'est souvent plusieurs petits événements de vie successifs et d'un seul coup, il y a un déclic. Et en fait, quand on fait ça, bien sûr, si on se met à bouger, alors bouger au début, c'est pas facile, mais on progresse, il faudrait des cours adaptés pour ces patients-là.
Alors, justement,
je vais en parler après. Mais oui. Si vous faites ça, que vous mangez différemment, vous trouvez un plaisir à vous occuper de votre santé, oui, vous repartez en arrière et vous êtes en rémission. Par contre, si vous lâchez tout, d'accord, le diabète reviendra.
Donc, c'est pas une guérison, c'est une rémission. Donc, pour parler de la, du mouvement, on bouge comment? Déjà, on est d'accord, il s'agit pas de faire un marathon, c'est pas ça la question.
Du tout. La question, c'est souvent, je vous l'ai dit, je pense, moi, que ces personnes sont fatigables, et c'est pas un hasard si elles nous disent, mais moi, c'est pas mon truc, je m'essouffle très vite, je trouve ça pénible, je pense qu'il y a un problème au niveau musculaire. Par contre, dès qu'on commence à bouger, on dégraisse ses muscles, ce que je vous ai raconté au départ, et donc probablement qu'on y arrive de plus en plus facilement. Mais il faut bouger à son rythme, il faut y aller doucement, en plus si on est en grand surpoids, on peut avoir des problèmes articulaires. Donc il faudrait un vrai accompagnement de coach formé aux problèmes de santé et de motiver des gens sans les décourager très vite.
Je voulais dire, on le sait, d'abord les médecins peuvent aujourd'hui prescrire du sport aux diabétiques. Ce sport adapté n'est pas remboursé aujourd'hui. Pardon, il y a des initiatives locales, mais il n'est pas remboursé. Vous l'avez dit, ce sont aussi souvent les plus précaires qui sont diabétiques et qui ont besoin de ce sport adapté. Pourquoi pas cette prise en charge qui, à long terme, serait positive, évidemment?
Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est un coût pour notre système de santé, mais vous avez raison de poser la question, parce qu'actuellement, notre système de santé et la sécurité sociale est impacté par le coût des nouveaux médicaments pour perdre du poids. Alors, ça aide beaucoup les personnes, mais c'est des médicaments qui coûtent cher. Donc, il y a un calcul à faire sur un investissement à mettre en prévention. Mais c'est compliqué pour les politiques parce que la prévention, c'est du long terme. Et voilà. Mais c'est sûr qu'il faut, si on accompagnait ces gens, alors peut-être aussi au niveau, l'hôpital le fait. Mais l'hôpital, c'est pas accessible pour tous, c'est loin, c'est pas beaucoup de ressources. Donc, il faudrait que dans les municipalités, alors, le sport sur ordonnance, c'est des expérimentations dans certaines municipalités, oui, accompagnées par l'ARS. Mais nous, en Ile-de-France, on n'en a pas, par exemple. Donc, dans les municipalités, se préoccuper de ça avec de l'aide, mais se préoccuper d'offrir, de proposer aux personnes en situation d'obésité ou de diabète, de l'accès à des cours avec des coachs formés et adaptés à leur rythme, à leur désir.
Et faire plus de sport à l'école, on en est loin parce que les initiatives pour l'instant sont toutes retoquées les unes après les autres, mais faire plus de sport à l'école rien que pour apprendre aux jeunes à bouger.
Bien sûr, il y avait eu une très bonne initiative à un moment avec le plan national nutrition santé qui avait été de supprimer les distributeurs de boissons sucrées, de viennoiseries. Dans les maternelles, à un moment, on donnait des viennoiseries aux enfants avec des paquets de gâteaux. Bon, il y a eu un progrès, mais en effet, l'activité physique, c'est la meilleure prévention. Et les parents qui nous demandent qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants, on leur dit, mais rendez-les, donnez-leur le plaisir de l'activité physique.
Il faut qu'ils voient leurs parents bouger, c'est sûr.
Voilà.
Concernant l'alimentation, on mange quoi déjà? Est-ce qu'on supprime quelque chose? Est-ce que c'est encore les régimes drastiques d'avant?
Alors, plus du tout. C'est apprendre à manger équilibré, mais avec des repas plaisir. Donc rien n'est interdit. Il peut même y avoir des repas où on se lâche, en oubliant qu'on a un problème de santé, c'est quand même agréable de le faire. De temps en temps, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine. Et puis on reprend le contrôle. Et c'est sûr que forcément, faut trouver du plaisir au contrôle. Parce que il faut apprendre à cuisiner, c'est pas évident. J'entendais le grand chef Marx, je sais plus son
Thierry Marx.
Thierry Marx, il avait fait une conférence magnifique dans une journée diabète et il avait dit quelque chose de très intéressant. Il a dit en fait les familles tournent souvent autour de 8 plats. À peu près 8-10 plats qui reviennent régulièrement et donc lui sa préoccupation c'est garder le plaisir de ses plats parce que c'est ce qu'on sait cuisiner mais apprendre à les cuisiner autrement. Voilà une bonne idée.
Effectivement, très bonne idée. Encore une question sur les associations. On sait aujourd'hui qu'un mauvais sommeil peut influer sur le diabète. Pourquoi? C'est quoi le lien?
Alors, c'est difficile de comprendre le lien. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les gens qui dorment mal ou qui n'ont pas assez de sommeil sont exposés au risque. Je peux pas tellement vous en dire plus. Est-ce que le fait de mal dormir dysrégule certaines hormones, parce que maintenant avec les nouveaux médicaments on voit l'implication de beaucoup d'hormones dans la montée de la glycémie. En tout cas, c'est clairement montré. Alors, est-ce que c'est une observation? Pour l'instant, c'est ça qui est difficile de savoir. Et que par ailleurs, ces personnes-là ont aussi un mode de vie assez délétère pour leur santé? Ou est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Mais c'est une association assez claire.
Alors, ces mesures hygiéno-diététiques dont on a parlé suffisent donc parfois, mais bien souvent la prise de médicaments est nécessaire. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré au diabète, une maladie grave si elle n'est pas traitée. Les médicaments disponibles sont nombreux, la recherche est active dans ce domaine. Malheureusement, certains de ces traitements sont utilisés pour de mauvaises raisons à l'origine de pénuries. On en parle avec le professeur Agnès Hartmann, chef de service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Anthony Thomasson et à la vidéo Jordan Fuentes. Quand le diagnostic est établi, c'est quel type de médicaments qu'on propose aujourd'hui? Parce que je le disais, la recherche est active, il y a eu de nombreux produits mis sur le marché ces dernières années. Est-ce qu'on commence toujours par les médicaments les plus classiques ou maintenant on commence avec les nouveaux médicaments?
Alors normalement, on commence avec un médicament classique qui est le plus ancien en diabétologie, qui est la metformine, donc générique, qui coupe un peu l'appétit, qui freine la production de sucre par le foie et qui marche assez bien en tout début de maladie. Donc dans les recommandations, c'est toujours elle. Qui donne pas d'hypoglycémie, donc qui est assez approprié.
Qui donne des troubles digestifs?
Qui peut donner des troubles digestifs si on la commence à forte dose. Donc il faut aller à dose très progressive. Et puis il y a certaines personnes qui sont complètement intolérantes, donc ils peuvent pas la prendre. Mmh. Et en deuxième ligne, on a le choix maintenant, en effet, entre plusieurs classes. Alors il y a des nouvelles classes qui ont montré qu'elles protégeaient aussi sur le risque cardiovasculaire et sur la néphropathie du diabète, l'atteinte des reins. Mmh. Donc elles sont assez intéressantes à utiliser. Et puis, il y a ces fameuses classes qui ont subi du détournement, qui sont les molécules qui permettent de perdre du poids.
Voilà, donc on peut les citer, hein, Ozempic et Trulicity, qui sont utilisées en injection.
En injection une fois par semaine.
Efficaces chez les diabétiques.
Alors, efficaces pour baisser la glycémie chez les patients qui arrivent à le tolérer.
Mmh. Et qui ont effectivement été détournés de leur usage. On voit sur les influenceuses se mettre en scène, hein, sur les réseaux sociaux en se piquant avec ces molécules, des jeunes femmes qui ne sont ni diabétiques ni obèses, mais qui veulent perdre du poids pour des raisons esthétiques. Et le résultat, c'est qu'il y a effectivement des pénuries.
Alors, il y a des pénuries, vous avez raison, qui sont liées à ça. Et ce qui est... Moi, j'ai toujours du mal à comprendre comment on arrive à se le procurer.
Enfin, oui, c'est sur ordonnance.
Il y a des fausses ordonnances, puisque moi, on m'en a soumis quelques-unes à mon nom qui étaient fausses. Donc, en effet, il y a des fausses ordonnances qui circulent. C'est très choquant, parce que d'abord, c'est un médicament. C'est-à-dire qu'il y a des risques que ces personnes ne maîtrisent pas. On est en train d'en découvrir quelques-uns. Dès qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent, on est en train de découvrir que si vous êtes avec des tendances de dépression assez sévères, il y a un risque suicidaire. On vient de découvrir aussi que ça pouvait abîmer le nerf optique chez certaines personnes. C'est jamais anodin de prendre un médicament. Et chez les patients en problème de santé, diabète, c'est un traitement du diabète. Donc eux, c'est recommandé parce que ça les aide à perdre du poids, mais ça contrôle aussi leur glycémie. Donc ce détournement est assez insupportable.
On peut s'en procurer par Internet.
Ouais, voilà. Et donc il y a des patients qui dépendaient de ce médicament pour être bien contrôlés. Et on en voit maintenant régulièrement en consultation qui arrivent en disant « j'en ai pas eu pendant 6 mois et donc mon diabète est hors de contrôle ». Et puis il y a quand même aussi le succès mondial et les industriels qui n'ont pas prévu assez de production. Et ce que je ne sais pas, donc je ne peux pas trop m'avancer, c'est que en France, la Sécurité sociale négocie le tarif. Donc le tarif est peut-être moins intéressant quand il y a un problème d'approvisionnement des industriels. Quel pays fournissent en premier? Je ne sais pas. Est-ce que la France passe peut-être au second plan parce que c'est peut-être moins rentable? En même temps, notre système de soins est extraordinaire. La Sécurité sociale permet que toute personne en problème de santé, diabète, puisse se procurer ce médicament.
Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays.
Voilà, donc il y a quand même un marché aussi pour l'industrie. Donc je ne sais pas comment ils se comportent. En tout cas, ils n'avaient pas prévu le succès de leurs molécules et ils ont ouvert de nouvelles lignes de production. Mais le détournement par des gens qui n'ont pas de problème de santé est assez moralement.
Une absence de solidarité absolument totale qui est quand même très grave. Il y a eu des pénuries aussi, justement, à un moment de ces capteurs de glycémie dont vous parliez. Mm-hmm. Pareil, pour des jeunes femmes qui souhaitaient contrôler leur poids grâce au contrôle de la glycémie. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux, cette pénurie ou pas ?
On en a à nouveau. Donc, on a à nouveau ces capteurs. Et c'est absurde de mettre ce type de capteur quand on n'a pas de problème de diabète ni de surpoids. Parce qu'on s'observe. Sûrement qu'on fait des selfies, qu'on envoie son chiffre à je ne sais qui sur un réseau social, mais pour les personnes qui sont en problème de santé, c'est pas du fun. C'est arriver à maîtriser ces montées de glycémie et c'est un énorme effort. Et c'est assez triste parce que pour l'instant, notre sécurité sociale que vraiment, voilà, il faut défendre, a fait un énorme effort. Elle rembourse les capteurs maintenant aux patients diabétiques, et c'est important de le dire là, qui ont même une seule injection d'insuline, ils peuvent avoir accès aux capteurs remboursés. Moi, je pense qu'idéalement, il faudrait que ces capteurs soient remboursés de temps en temps pour les personnes qui cherchent à améliorer leur situation de diabète avec l'activité physique et la diététique, parce qu'on apprend énormément de soi avec ce capteur et ça motive.
On parle des influenceuses, mais il y a aussi dans le domaine du diabète des tas de gens qui écrivent des tas de choses, des tas de recettes miracles. Juste pour revenir sur deux idées qui circulent énormément et qui sont quasiment la solution miracle, le jeûne intermittent, boire du vinaigre de cidre avant de manger du sucre, c'est des choses qui reposent sur quelque chose ou pas?
Non,
du tout.
Non, pas du tout. En même temps, nous, notre pratique sur les personnes qui, alors, boire du vinaigre, si elles se mettent pas en danger, on leur dit, moi je leur dis, j'ai pas appris ça à la faculté de médecine.
Bah autant commencer un repas par des carottes râpées avec une vinaigrette, voilà. En gros.
En éducation thérapeutique, on dit faire avec pour aller contre. Voilà, on les contourne, les croyances. Après, le jeûne intermittent, c'est pas forcément inintéressant, mais en fait, quand on réfléchit sur le plan physiologique, c'est la rupture du jeûne qui compte. C'est-à-dire, si vous jeûnez et que d'un seul coup vous passez à un repas festif, c'est une catastrophe sur le plan métabolique. D'accord. Donc, on peut jeûner de manière intermittente, pourquoi pas, mais il faut savoir comment on sort du jeûne. Et
donc ça aussi, on le fait accompagner ?
Ah ben, bien sûr.
Je voudrais qu'on termine cette émission en parlant de notre hôpital. Vous l'avez dit, on est dans un pays formidable où on est soigné, quels que soient ses revenus, ce qui est quand même extraordinaire. L'hôpital public va mal depuis des années. Vous êtes une des grandes combattantes de l'hôpital public. Il y a eu différentes annonces, il y a eu différentes aides, notamment par exemple pour les infirmières. Est-ce que aujourd'hui ça va mieux ou pas ?
Alors j'ai fait un rêve cette nuit. Je me suis dit, si ce matin, je vais dire, c'est extraordinaire. Les salaires ont été revalorisés. On garantit aux infirmiers et aux infirmières qu'ils seront en nombre autour de leurs patients, qui feront plus qu'un week-end sur trois. Et j'ai rêvé que ce matin, je vous disais, oh, ça y est, ils quittent tous les boîtes d'intérim, ils reviennent à l'hôpital public, on peut rouvrir les salles qui étaient fermées, on désengorge les urgences. Vous pouvez venir aux urgences, même si vous avez un doute, sans faire le 15. Voilà, c'était un rêve.
C'était un rêve qui, quand vous vous êtes réveillé, était un cauchemar, quoi.
Voilà, et j'ai une pensée ce matin, parce qu'au collectif Interrupté, on sait un peu tout ce qui se passe en France, pour le service des urgences de Caen. Je ne le connais pas, ce service, mais j'ai appris qu'il y avait jusqu'à présent peut-être 15 médecins dans le service des urgences. Les conditions ont dû devenir tellement difficiles qu'ils ont l'air d'être plus que 3 ou 4, avec des internes qui tiennent le navire et sûrement du personnel autour en difficulté. Ils sont toujours là, mais je leur tire mon chapeau, ça ne doit pas être facile.
Voilà, on a entendu effectivement votre message, votre combat qui ne s'arrête pas. Et s'il ne s'arrête pas, c'est pour l'égalité entre tous les patients, pour que les patients puissent continuer à être soignés dans notre pays. Et c'est absolument essentiel. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Dans la prochaine émission, on parlera de notre cerveau avec Sylvie Chaucron, qui est neuropsychologue. Il va être question des écrans et de leur impact sur notre cerveau chez les tout-petits, mais aussi chez les ados et les adultes. Noël approche, il va falloir commander au Père Noël des cadeaux. Est-ce que c'est une bonne idée de leur proposer des jeux qui sont dits éducatifs, mais qui sont sur tablette ? Eh bien, on verra tout ça avec Sylvie Chaucron.
Vous êtes bien sur France Culture.
Le philosophe Claude Lefort aurait eu 100 ans cette année.
Géraldine Mühlmann.
Son itinéraire et son œuvre traversent le XXe siècle, les horreurs politiques qui s'y sont déployées et les espoirs demeurés de faire vivre malgré tout l'exigence démocratique. Et tout cela marque l'écriture de Lefort, la traverse en retour. Nous lui rendons hommage cette semaine.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Eh bien, ça commence comme un lundi, car nous sommes le lundi et même le lundi 18 novembre 2024. Dans quelques instants, Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos France, évoquera avec nous les sondeurs américains. Se sont-ils trompés ? Alors, lui pense que non et il vous expliquera pourquoi il estime que les résultats de l'élection américaine ont été bien prévus. Et puis on va parler d'une justice politique ou pas. Et nous serons à 7h40 en compagnie de Magali Lafourcade et de l'avocat Hervé Lehmann. 6h30 sur France Culture. Et oui, c'est elle, c'est Margot Delpierre pour le Premier Journal. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Colère des agriculteurs, acte 2, ils se mobilisent à nouveau à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour dénoncer notamment un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, reportage dans le Rhône. Les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée en Russie, un responsable américain l'a confirmé à l'AFP. Washington a fini par dire oui après des mois de débats.
Comment expliquer la différence aux États-Unis entre les sondage et le résultat de la présidentielle avec la victoire de Donald Trump? On va en parler dans les enjeux internationaux et ça sera dans 10 minutes.
La FNSEA recense 82 actions et certaines ont commencé dès hier après-midi. Les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui après une première démonstration de leur colère l'hiver dernier, après de mauvaises récoltes et alors qu'ils font face à des maladies animales émergentes. Ils estiment n'avoir toujours pas obtenu la concrétisation des engagements pris par le gouvernement de Gabriel Attal. Rappelons qu'entre-temps, l'Assemblée nationale a été dissoute. Ils souhaitent aussi dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et se mobilisent donc dans de nombreux départements, notamment le Rhône, où des panneaux de communes ont été bâchés, voire retirés par les manifestants. Mathilde Imberti a suivi des éleveurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs dans le canton de Tarare, au nord de Lyon.
Ils se sont donné rendez-vous hier soir près de Tarare, sur l'exploitation des Gouttes Noires. Alvin et Pascal, père et fils, les bâches sont installées dans les voitures avec le scotch, la peinture.
Et notre but, c'est de ne pas dégrader les panneaux. On a crié, on est perdu parce qu'on ne sait pas où on va. On avait des revendications, on attendait des réponses qu'on n'a toujours pas.
On est perdu par rapport à la perspective du Mercosur notamment.
Le Mercosur, on fait déjà des échanges dans tout ce qui est minerais et matières premières avec le Brésil, avec tout ce qui est Amérique du Sud. Et là, ils veulent inclure dans les démarches commerciale de la viande. Et le problème, c'est que nous, si on fait ça, on se détruit intérieurement. Mais non, les Almes, ils y font. Allez au mortier, là-bas. À la montée du stade. Ouais, ok.
Les panneaux sont chargés dans le coffre d'Ervin.
Je suis Ervin Seyer, je suis vigneron dans un domaine familial à Le Breuil. On nous interdit tous les produits qui sont essentiels pour la vigne, que ce soit les engrais ou des produits phytosanitaires. Mais en soi, ils ne nous proposent rien en contrepartie pour pouvoir entretenir la vigne et avoir une vraie récolte.
On est dans le symbolique, un démarrage tranquille, justifie Pascal Goutte-Noire, vice-président du syndicat FDSEA dans le Rhône.
On aimerait ne pas arriver à rebloquer comme on a fait en début d'année. Ça soulagerait l'agriculture s'il y avait une prise de conscience rapide. On espère sans espérer.
Ils invitent les parlementaires ce matin sur un pont à l'entrée de Lyon pour échanger et exposer la trentaine de panneaux communaux démontés au cours du week-end.
Mathilde Imberti, hier en Ile-de-France, près de 200 agriculteurs bloqués, deux des trois voies de la Nationale 118 à hauteur de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, où nous irons d'ailleurs dans le journal de 8h. Emmanuel Macron veut les rassurer, il assure que la France ne signera pas en l'état le traité de libre-échange, mais la Commission européenne, soutenue notamment par l'Allemagne et l'Espagne, espère y parvenir d'ici à la fin de l'année. Orange négocie un plan de départ volontaire dédié aux seniors de l'entreprise. Entre 8 000 et 10 000 salariés, soit environ 10% des effectifs français de l'opérateur, pourraient bénéficier d'un temps partiel senior, activable 5 ans avant leur date de départ à la retraite. C'est en réalité un immense plan social qui vise à faire partir les plus âgés, estime Sébastien Crozier, président du syndicat CFE-CGC d'Orange. Il accuse la direction de vouloir délocaliser et sous-traiter. Les discussions doivent se terminer en janvier.
6h33 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Washington a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis.
Oui, plusieurs médias l'annonçaient hier, citant des sources officielles. Kiev, qui lutte contre l'invasion russe depuis le 24 février 2022, attendait ce feu vert depuis longtemps. D'abord, ces missiles devraient permettre aux Ukrainiens de protéger la région russe de Koursk, tenue par Kiev. Les précisions à New York de Loïc Loury.
L'arrivée en Russie de 10 000 soldats nord-coréens venus aider Moscou à reprendre la région de Koursk, c'est cela qui aurait finalement décidé Washington à donner son feu vert à l'Ukraine. Après des mois de débats avec ses conseillers, Joe Biden autorise Kiev à frapper la Russie sur son propre territoire avec les missiles ATACMS d'une portée de 300 km déjà fournis par les Américains. Une rupture stratégique majeure de la part du démocrate, même si le cours de la guerre ne devrait pas en être bouleversé, tempère des responsables. Objectif, dans un premier temps, permettre à Kiev de défendre la région de Koursk conquise cet été et mettre en garde la Corée du Nord. Ses soldats seront menacés s'ils opèrent sur le sol russe. Joe Biden tente aussi peut-être de mettre Kiev dans la meilleure position possible en cas d'éventuelle négociation forcée avec Vladimir Poutine. Dans deux mois, c'est en effet Donald Trump qui prendra sa place dans le bureau ovale et le milliardaire compte bien couper les livraisons d'armes à l'Ukraine.
Et dans le journal de 7h, nous serons en direct de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Tandis qu'à Soumy, dans le nord-est, une frappe de missile russe a fait 8 morts et au moins 10 blessés hier soir, selon le bureau du procureur régional. Il y aurait au moins un enfant parmi les victimes. Il sera probablement question de l'Ukraine dans les coulisses du G20 à Rio aujourd'hui. Un sommet où va planer l'ombre de Donald Trump, président élu des États-Unis. Le retour à la Maison-Blanche de l'homme d'affaires républicain est synonyme d'espoir pour les partisans de l'ex-dirigeant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, inéligible jusqu'en 2030. La correspondance au Brésil de Jean-Mathieu Albertini.
Sous un soleil de plomb, des militants bolsonaristes plantent sur la plage de Copacabana des photos de putschistes incarcérés depuis le saccage des bâtiments des trois pouvoirs le 8 janvier 2023. Ils demandent leur libération et souhaitent aussi voir annuler la peine d'inéligibilité de leur leader. Avec le retour de Trump, Marcos Torres y croit maintenant plus que jamais.
On compte beaucoup sur la victoire de Trump parce qu'Elon Musk sait qu'il y a une dictature au Brésil, car X a été banni du Brésil, sans véritable raison, sans jugement. Aujourd'hui, le juge de la Cour suprême, Alexandre de Moraes, interprète la Constitution comme bon lui semble.
En montrant que les accusations de coup d'État et les poursuites judiciaires ne sont pas un obstacle pour revenir au pouvoir, la réélection de Trump redonne du baume au cœur à Dio.
La victoire de Trump nous a montré que si on peut renverser la vapeur là, on peut le faire ici. Ça rallume la flamme pour tous les patriotes partout dans le monde. C'est comme une lumière au fond du tunnel.
Pas sûr que Donald Trump ne fasse du Brésil une priorité, mais sa victoire est en tout cas largement exploitée politiquement au sein de l'extrême droite brésilienne. Et puis, si les parlementaires et les mouvements réactionnaires intensifient leurs liens avec leurs homologues aux États-Unis, l'attaque suicide d'un soutien de l'ex-président devant la Cour suprême mercredi dernier risque bien d'enterrer leurs espoirs d'amnistie.
Le reportage de Jean-Mathieu Albertini. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, somme les pays du G20 de montrer l'exemple et de trouver des compromis pour sauver la COP29. Le déblocage pourrait venir de Rio, alors que se poursuit la conférence des Nations Unies sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan. Au cœur de la COP, le financement climatique, le besoin est estimé à 1 000 milliards de dollars d'aide annuelle pour les pays en développement d'ici 2030. Météo France prévoit beaucoup de grisailles sur les trois quarts du pays, un temps parfois pluvieux, surtout sur le nord, temps sec dans le sud. 9 degrés attendus cet après-midi à Lille et Strasbourg, 11 à Paris et Lyon, 14 à Brest et La Rochelle, 18 degrés à Nice. 6h38, à suivre Guillaume Herner, les enjeux internationaux.
Merci beaucoup Margot Delpierre.
Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Ces enjeux internationaux, ils nous conduisent aux États-Unis. Souvenez-vous, on pensait devoir attendre plusieurs jours avant de connaître le nom du nouveau président des États-Unis, tant le scrutin était annoncé serré. Pourtant, dès les premières heures après la fermeture des bureaux de vote, il est devenu clair que Donald Trump avait nettement remporté ces élections. Alors, comment expliquer cette différence entre les pronostics et les premiers résultats ? Bonjour Mathieu Gallard.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos France, spécialiste de l'analyse des tendances d'opinion et des tendances électorales. Vous avez notamment publié « Les États-Unis au bord de la guerre civile » aux éditions de l'Aube. Les instituts de sondage avaient déjà reconnu avoir sous-évalué les votes en faveur de Trump en 2016, mais aussi en 2020. À l'époque, qu'est-ce qui s'était passé, Mathieu Gallard ?
Ce qu'on avait constaté lors des deux précédentes élections présidentielles, c'est vrai que les échantillons qui étaient prélevés par les instituts de sondage n'étaient pas tout à fait représentatifs de la réalité de l'électorat américain, notamment sur deux dimensions. La première dimension, c'est le niveau de diplôme. En fait, dans le niveau de diplôme des individus, des électeurs, c'était pas explicatif de leur comportement électoral. Vous pouviez avoir un haut niveau de diplôme ou un niveau de diplôme plutôt bas et vous votiez à peu près autant démocrates et républicains. À partir de 2016, c'était plus le cas. 2016, clairement, les diplômés du supérieur votent de plus en plus en faveur des démocrates et ceux qui avaient un faible niveau de diplôme, de moins en moins. Et c'était pas pris en compte, en fait, par les instituts de sondage, qui avaient souvent des échantillons qui surreprésentaient les personnes diplômées du supérieur. Donc ça, déjà, ça a été pris en compte. On fait en sorte d'avoir des échantillons qui sont représentatifs. Donc ça a légèrement amélioré les choses. Et puis, on a la même dimension, en fait, sur le côté un petit peu anti-establishment. En fait, si vous étiez anti-establishment, anti-système, dans le passé, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur votre vote. Mais désormais, ça en a. Plus vous êtes anti-système, plus vous votez républicain. Et en fait, une partie de cet électorat anti-establishment, anti-système, assimile les instituts de sondage au système et refuse donc d'y répondre. Donc ça pouvait créer une distorsion qui conduisait à sous-estimer Donald Trump. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les instituts de sondage américains pour tenter d'atténuer ce problème ? C'est qu'ils font ce qu'on fait en France depuis des décennies, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir des échantillons qui sont représentatifs en termes politiques. Donc en gros, ils demandent aux personnes qu'ils interrogent pour qui ils ont voté lors de la dernière élection présidentielle. Et s'ils s'aperçoivent que leur échantillon est distordu en faveur d'un candidat lors de la précédente élection présidentielle, ils font ce qu'on appelle un redressement pour faire en sorte que leur échantillon soit parfaitement représentatif. Et donc tout ça, ça a fait en sorte que les choses se soient quand même améliorées par rapport à 2016 ou à 2020.
Alors vous dites qu'elles se sont améliorées, mais beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs ont eu la sensation que les sondeurs s'étaient trompés parce qu'on nous avait annoncé un scrutin très serré. Or, Donald Trump s'est détaché nettement dès le début donc, de la fermeture des bureaux de vote, Mathieu Gallard.
Oui, alors quand on analysait les sondages américains dans la dernière ligne droite de la campagne, on disait, et on l'a dit beaucoup aussi dans les médias français, que les sondages ils nous conduisaient à dire qu'il y avait beaucoup d'incertitudes autour du scrutin. Donc on ne savait pas, en regardant les sondages, dire lequel des deux candidats allait l'emporter. Pour autant, on disait aussi qu'il n'était pas... Enfin, que ça ne voulait pas dire que le résultat serait incroyablement serré, tout simplement parce qu'un sondage, autour d'un sondage, il y a forcément une certaine marge d'incertitude. Et donc, quand les sondages vous donnent, que ça soit au niveau national ou dans certains états clés, mettons 50-50, ça peut vouloir dire qu'à la fin, les résultats, ça va être 51-49 ou 52-48. Et au final, ça n'est pas si serré. C'est la différence entre une élection qui joue à 100 ou à 1000 voix et une élection qui joue peut-être à 10 000 ou 50 000 voix. Les sondages, ils permettent pas, en fait, de dire de quel côté ça va aller.
Mais alors, je me souviens, par exemple, d'un éditorial du chef du service politique du New York Times qui expliquait « On ne peut pas dire qui va remporter cette élection américaine et tous ceux qui vous disent qu'ils savent vous mentent. » Or, si vous voulez, ce que l'on ne comprend pas, c'est au vu de la différence des voix. Alors, scrutin populaire, on sait bien que le scrutin est un scrutin par grands électeurs et donc que le vote populaire ne signifie pas grand-chose. Mais on se dit, mais comment ça se fait que ces gens disaient que c'était indécidable alors qu'il y a de telles différences entre les votes pour Trump et les votes pour Harris ?
Il me semble que justement l'écart entre les deux est pas si important que ça. C'est vrai que le lendemain de l'élection en France, on a beaucoup annoncé un triomphe, un raz-de-marée, une vague républicaine en faveur de Donald Trump. Mais il y a quand même un élément qu'il faut toujours conserver en tête quand on regarde les élections américaines, c'est que le dépouillement, il prend extrêmement longtemps. Il n'est toujours pas fini. Dans certains États, et notamment la Californie, il reste encore de nombreux bulletins de vote à dépouiller. Là, on en a encore des centaines de milliers. Et donc, ce qui fait que les résultats qu'on a le lendemain de l'élection, ils sont extrêmement partiel. Et là, par exemple, au moment où je vous parle, on n'a plus qu'un écart de 1,8 point entre les deux candidats, ce qui équivaut à 2,6 millions de votes. Alors que le lendemain du scrutin, on parlait quasiment de 10, parfois 15 millions de voix d'écart entre les deux candidats. Donc les choses se sont quand même resserrées. C'est une victoire de Donald Trump qui est claire, qui est nette, mais qui n'est vraiment pas large. Historiquement, on va probablement être sur la cinquième ou la sixième élection la plus serrée depuis 1868, donc depuis qu'en gros l'affrontement entre les démocrates et les républicains s'est mis en place aux États-Unis.
Mais alors, expliquez-nous pourquoi, parce que alors, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, donc on a suivi minute par minute et on l'a fait vivre à nos auditeurs, le dépouillement des voix, et très rapidement, le New York Times a dit que l'élection de Donald Trump était « very likely », donc qu'elle était très probable. Mais comment cela se fait-il que l'on puisse avoir ce genre de certitude alors qu'il reste, vous dites, encore aujourd'hui, des centaines de milliers de bulletins de vote à dépouiller?
Parce que, comme vous l'avez dit, ça joue évidemment pas au niveau national, mais dans un certain nombre d'États clés qui sont des États où il y a de l'incertitude et on se demande vers quel candidat ils vont basculer au final. Et en fait, en 2020, ce qui s'était passé, c'est que dans la plupart de ces États clés, ces swing states, c'est vrai que Joe Biden l'avait remporté, mais l'avait remporté avec une marge incroyablement faible, souvent 0,2, 0,5 points d'avance. Là, ça reste une marge relativement faible, mais une marge un peu plus confortable pour Donald Trump, entre 1,5 et 2,5 points d'avance dans la plupart de ses swing states. Ce qui fait en fait que plus rapidement dans la soirée électorale aux États-Unis, on a été quand même capable de dire, même s'il restait encore un certain nombre de bulletins à dépouiller, que Donald Trump avait de très grandes chances de remporter ces États. C'est la différence entre une élection qui va jouer à 0,2, 0,3 points dans un État et une élection qui va jouer à 1, 1,5, 2 points, ce qui reste serré, mais bon, ce qui est moins serré, et ce qui fait que effectivement, ce suspense, il dure moins longtemps.
Mais alors, là aussi, parce que, bon, on se doute que avec des élections, il y a un certain nombre de difficultés techniques, mais si on prend par exemple la Pennsylvanie, on avait des évaluations qui allaient entre victoire de Harris à plus 3 points, jusqu'à des victoires de Trump plus 2 points, et donc là, finalement, on a une différence de 5 points pour ces sondages. 5 points, est-ce que ça n'est pas trop? Est-ce que ça n'est pas au-delà de la marge d'erreur? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire, Mathieu Gallard, que les techniques de sondage ne sont pas au point ou qu'elles doivent être adaptées, en tout cas apparemment, pour cette élection à l'échelle d'un État comme la Pennsylvanie?
Bah, il y a deux choses en fait. Quand vous réalisez des sondages, soit effectivement entre les différents instituts, il y a des écarts, et là vous prenez l'exemple de la Pennsylvanie, il y avait des écarts d'environ 5 points entre les instituts qui donnaient la tendance la plus en faveur de Trump et la plus en faveur de Harris. Et on va vous accuser effectivement de ne pas vraiment savoir où vous en êtes, soit vous donnez quasiment tous le même chiffre et on va vous accuser un peu de vous copier les uns sur les autres. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait effectivement une certaine incertitude, des différences entre les instituts de sondage, ce qui montre que effectivement, on était juste incapable de dire à ce niveau-là qui allait l'emporter. Au final, en Pennsylvanie, par exemple, c'est Trump qui l'emporte. Trump qui l'emporte avec une marge de 1,8 points. C'est une marge qui est relativement nette, mais qui n'est pas très large. C'est une marge qui est à l'intérieur de la marge d'erreur, donc de cette incertitude qu'il y a autour des sondages. Ça montre que, de mon point de vue, les sondages ne se sont pas trompés en tant que tels. Ils montraient bien cette incertitude. Ça montre quand même qu'il reste effectivement une part plus petite qu'en 2016 ou en 2020, mais une part de cet électorat trumpiste qu'on n'arrive pas forcément à toucher. Donc je dirais que les choses se sont améliorées clairement par rapport à il y a 4 ou il y a 8 ans, mais qu'il y a sans doute encore des améliorations qui peuvent être mises en place par les instituts de sondage américains.
Bon, alors si on continue la lecture de ces résultats, en fait, la victoire de Trump, sauf erreur de ma part, elle provient du fait qu'il a remporté tous les swing states. Et bon, là, effectivement, l'écart que j'évoquais pour la Pennsylvanie, il se retrouve à une échelle moindre pour les autres États. Mais, si vous voulez, on savait donc que l'écart allait être serré si on prenait donc ces sondages. Mais il se trouve qu'à chaque fois, c'est Trump qui l'a emporté. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de vice de procédure? Parce que, bien sûr, l'écart, il peut être considéré comme serré. Mais si c'est à chaque fois Trump qui l'emporte?
Oui, non, mais vous avez raison. Alors, il y a une logique hein, à ce que, effectivement, quand il y a des swing states qui, juste avant l'élection, sont extrêmement serrés, bah, ils basculent tous plus ou moins du même côté. Il y a quand même des tendances nationales. Et quand vous regardez les résultats de cette élection présidentielle américaine et la victoire de Trump, ça joue incontestablement sur le mécontentement des Américains vis-à-vis de la situation économique et donc vis-à-vis du bilan de l'administration Biden. Donc c'est assez logique que dans tous les États, finalement, bah, s'il y a un léger écart en faveur de Trump au niveau national entre les sondages et les résultats, bah, dans tous les swing states, ça bascule un peu du même côté. Mais c'est ce que je vous disais globalement. L'écart entre les sondages et les résultats finaux, il est relativement faible. Il est nettement plus faible qu'en 2020 ou qu'en 2016. Mais il est quand même là et il est quand même systématiquement là en faveur de Donald Trump. Donc effectivement, il reste une petite partie de l'électorat trumpiste, soit qu'on n'arrive pas à joindre, soit effectivement peut-être une petite partie qui nous dit qu'ils vont plutôt s'abstenir, qui au final, dans la dernière ligne droite de l'élection, décide de voter pour Trump, soit une partie des électeurs vraiment indécis qui tous basculent en faveur de Trump. Donc il y a encore des choses à améliorer, incontestablement. Mais la différence par rapport au dernier scrutin, elle est beaucoup moins forte.
Conclusion, Mathieu Gallard, en quelques mots, lorsque les résultats sont tombés, donc on pensait qu'il y avait 10 millions de différences de voix entre Trump et Harris, et on a expliqué que la campagne d'Harris était pathétique. Est-ce que la différence moindre vous conduit à relativiser l'échec de Kamala Harris ?
Bah, c'est un échec. Moi, ce qui me semble, et c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'effectivement, c'est pas tant un échec de la campagne de Kamala Harris qu'un échec de l'administration Biden à avoir mis en avant des résultats économiques qui soient positifs pour les Américains. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on se dit, quand on regarde ces résultats qui désormais sont consolidés, que bah, ça aurait été difficile, quoi qu'il arrive, pour Harris, pour dans un contexte qui, nationalement, était très difficile.
Merci, Mathieu Gallard. Je rappelle votre dernier livre, « Les États-Unis au bord de la guerre civile », c'est aux éditions de l'Aube. Vous êtes directeur d'études chez Ipsos.
Chaque année, dans l'équipe de Culture Monde, on voit annoncer la Journée mondiale des toilettes. Alors on s'est dit, pourquoi pas une série ? Et il s'avère que c'est un besoin urgent.
Julie Gacon.
Entre les WC publics pas très accessibles dans des villes européennes qui se transforment, l'urgence sanitaire dans les camps de réfugiés, en Inde, la promesse de toilettes pour toutes et tous, et les réflexions sur le tout à l'égout, pourquoi évacuer à tout prix ? Accès aux toilettes, un enjeu mondial.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Serge Effez est psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Tout au long de sa carrière, il a épousé des thèmes spécifiques à notre époque.
Ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux dans l'existence, c'est d'avoir deux parents qui sont là pour vous inconditionnellement et qui vous aiment et qui vous soutiennent.
À voix nue, Serge Effez, du lundi au vendredi à 19h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h52, c'est Alexandra Delbo.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Avec science, bonjour Alexandra.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
D'où vient la perception négative de l'environnement pendant la dépression ?
Oui, c'est ce qu'on appelle aussi le biais de négativité et c'est l'un des symptômes de cette dépression. On estime en France que près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira au cours de sa vie de cette pathologie. Pourtant, il n'existe pas de remède miracle, pas de thérapeutique parfaite. Par exemple, un tiers des patients sont dits réfractaires aux antidépresseurs. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacent de chaque symptôme pour comprendre la physiopathologie de la maladie et notamment ce qui provoque ce biais de négativité dans le cerveau. Marianne Alonso est chercheuse à l'Institut Pasteur, elle dirige le groupe Circuit émotionnel et elle est la première autrice et responsable de cette étude parue dans Translational Psychiatry.
En général, quand on est en face à un stimulus, la première chose qu'on va faire, c'est de donner une valeur, un signe à cet stimulus. On va dire que c'est quelque chose de positif, agréable ou négatif, même avant de l'identifier. Avec les odeurs, ça arrive de manière très, très intuitive. On sent une odeur et tout de suite, on va dire ou c'est positif ou c'est négatif. C'est ce qui se passe dans la dépression, justement, que cette assignation de valeur, cette première stimulus, il est décalé. C'est que les patients, ils vont apercevoir des stimulus qui étaient positifs avant, comme moins positifs, voire neutres. Et au contraire, des stimulus qui normalement sont un peu négatifs, ils vont devenir encore plus négatifs. Donc tout est décalé vers les côtés de la négativité.
On connaissait déjà la structure cérébrale impliquée dans le processus d'assignation de valeurs, donc le fait de dire si un stimulus est positif ou négatif. C'est l'amygdale, aussi le centre de gestion des émotions, mais cette région n'avait jamais été étudiée dans un contexte de biais négatif et d'état dépressif. C'est ce qu'a voulu faire cette étude dans un modèle murin, donc chez la souris.
Car quand on se fait retirer les amygdales, du coup on est toujours du premier.
C'est pas le même endroit.
Mince. Mais comment rend-on des souris dépressives alors on leur fait...
On les force à se réveiller très tôt le lundi matin.
On leur fait écouter les actualités.
Non, on ruse un petit peu en créant une dépression pharmacologique. La corticostérone, une hormone naturelle de la peur, déclenche un syndrome dépressif quand elle est administrée de manière continue. Les souris deviennent alors anxieuses, elles rasent les murs, font moins leur toilette et se cachent dans le noir. Pour déterminer le biais de négativité de ces animaux, les scientifiques leur ont fait sentir des odeurs, certaines normalement positive et attractive, comme celle d'urine de femelle, ou négative, comme celle d'un prédateur, en l'occurrence un renard. Grâce à de l'imagerie, les structures cérébrales sont visualisées et comparées à des souris contrôles. Et résultat, dans la dépression, les circuits positifs sont sous-activés et les circuits négatifs sont suractivés, mais cela peut être en partie inversé.
Il y a certaines voies qui ont été décrites pour coder, pour signaler un stimulus qui est positif. Justement, dans sa modèle dépressif, cette voie qu'on appelle une voie positive, elle était moins activée. Et au contraire, la voie de l'amygdale qui est impliquée dans la détection des odeurs négatives et des stimulus négatifs de manière générale, il était suractivé. Donc, du coup, l'activation de l'amygdale, il était comme décalé vers le côté négatif. Avec des techniques qui permettent justement de contrôler de manière spécifique l'activité d'un groupe de neurones, on a pu révertir en partie ces biais de négativité. En fait, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'en activant justement un peu plus ces neurones qui vont détecter le côté positif, si on pousse un peu l'activité de ces neurones, donc ces odeurs positives qui avant étaient un peu neutres, ils devenaient un peu sans intérêt, ils redeviennent intéressants, les animaux ils vont s'approcher et en même temps, les animaux ils vont présenter moins de symptômes dits dépressifs. Donc, on est capable de corriger d'un côté les biais de négativité et en même temps le phénotype dépressif.
En revanche, les auteurs et autrices ne sont pas parvenus à faire de même pour les circuits négatifs. Impossible de les sous-activer. Cette étude est la première à mettre en évidence les mécanismes cérébraux du biais de négativité dans la dépression. Et cela ouvre la voie, bien sûr, à de nouvelles pistes thérapeutiques, mais ce n'est pas pour tout de suite. La poursuite immédiate de ces travaux, c'est d'investiguer ce même mécanisme, mais à un niveau cellulaire et moléculaire, ainsi que d'étudier la différence entre les sexes, et c'est primordial. Cette étude n'a eu recours qu'à des mâles. L'objectif futur est de déterminer si le sexe a une influence sur ce symptôme de la maladie.
Merci beaucoup Alexandra Delbo.
6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, chronique audio, faut-il quitter X ? Pour ma part, c'est déjà fait.
La réponse me paraît évidente, hein, donc il faut vous suivre. Vous êtes sur Blue Sky ?
Absolument.
Bon, en tout cas, pour moi, avoir une activité sur X relève du pur masochisme ou de la folie la plus complète. Ça fait longtemps que ce réseau social, à mes yeux, ressemble à un hôpital de jour. Alors bien sûr, les choses ne se sont pas arrangées depuis le rachat par Elon Musk, d'abord à cause de Musk lui-même, qui a demandé à ses ingénieurs de le rendre super visible, ce qui peut se comprendre, hein, puisqu'il a quand même déboursé le pauvre chat 40 milliards de dollars pour s'offrir ce machin. Donc évidemment, il faut fuir Twitter. Moi, en tout cas, je préférerais avaler un bol de scorpion plutôt que de faire un tweet. Non seulement il faut quitter Twitter, mais il faudrait aussi demander à Twitter des dommages et intérêts, ou plutôt que le débat public le fasse, car je suis frappé par le tort terrible que ce réseau social a causé à la conversation nationale, voire à la conversation mondiale. C'est pas seulement ce qu'on essaie déjà, hein, la propagation des fake news, des crétineries complotistes, des jugements idiots, ce ne sont pas seulement ces bulles cognitives qui nous confinent et nous radicalisent dans nos œillères respectives, c'est aussi un affaissement de l'art du dialogue, remplacé par le goût de la provocation et la pratique de l'invective, bref, tout ça est connu.
Mais ce qui questionne, c'est la chose suivante. Le problème, est-ce Twitter et son algorithme belliqueux et pro-troll, ou bien est-ce le principe même du réseau social? Je suis pas loin de pencher pour la seconde réponse. Moi qui, sur Facebook, par exemple, ne fréquente que des groupes de runners, de coureurs et de cyclistes, j'ai même vu des discussions dégénérées entre partisans des chambres à air et tenants du tubelet. Vous savez, les pneus qui n'ont pas de chambre à air. Autrement dit, les réseaux sociaux ne sont pas simplement une technique, mais c'est une métatechnique. Ils génèrent un comportement. En d'autres termes, les mêmes causes produiront les mêmes effets, et c'est le principe même du réseau social qui attire le troll, ça c'est une évidence, mais aussi, et c'est plus grave, qui trollise l'âme humaine en attendant l'étape suivante qui, j'en ai bien peur au vu de ce que nous connaissons, promet d'être encore pire.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et dans quelques instants, on va évoquer ce procès sur le Rassemblement national, mais le procès également de Marine Le Pen. Peut-on évoquer une justice de plus en plus politique? C'est en tout cas la stratégie de défense de la patronne du Rassemblement national. Nous serons en compagnie d'une magistrate, Magali Lafourcade.